Bonsoir, chers amis, chère Église, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir, une fois de plus, en ce mercredi, pour parler ensemble de la Bible, de Dieu, et d'échanger, de répondre à vos questions, et d'avancer ensemble dans cette démarche de foi. Alors, aujourd'hui, je vais faire un choix un peu particulier, c'est que je ne répondrai pas à une question, même si j'en reçois plusieurs, mais je vais construire l'ensemble de mon cours autour d'à la fois une demande qui m'a été faite par mail il y a quelques semaines, quelques jours, et d'un commentaire que j'ai vu sur une des vidéos qui pourrait être perçu comme un commentaire à la fois positif et négatif, mais parce que je crois qu'il est important d'affronter les vérités, les commentaires et les réactions des gens. J'ai voulu prendre le temps de revenir sur ce commentaire. Dans mon cours sur la vérité, quelqu'un a dit qu'il avait beaucoup aimé le fait que j'utilise Jésus comme explication de la vérité, de dire que la vérité était une personne et que c'était Jésus. Mais cette personne ne comprenait pas pourquoi j'avais utilisé l'Ancien Testament pour illustrer la compréhension que j'ai de la vérité en Jésus. Elle disait qu'elle croyait en Jésus, elle prenait Jésus et son enseignement, son amour, mais que par contre elle ne voulait pas, ou en tout cas elle ne croyait pas que le Dieu de l'Ancien Testament avait un lien à avoir avec Jésus. Elle ne comprenait pas finalement le lien qu'il pouvait y avoir entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, que finalement le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu méchant qui détruit, qui tue, qui n'exprime pas du tout ce que Jésus exprime dans son ministère. J'ai trouvé ce commentaire extrêmement intéressant et je me suis dit que si une personne exprime cela, c'est que peut-être d'autres se posent la question. De même, j'ai reçu par mail, et je vais citer Claudine, des questions et des demandes d'expliquer pourquoi nous prenons la Bible comme référence et pourquoi finalement la Bible est le livre que nous utilisons et peut-être pourquoi par rapport à d'autres livres religieux il serait supérieur. Et donc j'ai intitulé ce partage Pourquoi la Bible est un livre différent ? Pourquoi la Bible est un livre différent ? Ou pourquoi la Bible n'est pas un livre comme les autres ? Alors d'abord, je vais m'attacher à répondre, ou en tout cas à échanger avec ce commentaire que nous avons reçu il y a quelques semaines par rapport à la vérité. Et en fait, je dirais déjà d'un premier abord, nous ne pouvons pas extraire Jésus, choisir l'un de l'Ancien Testament sans lire l'Ancien Testament. Quand j'ai utilisé ce mot « vérité » en hébreu pour expliquer qu'il y avait un lien avec ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament à travers l'Apocalypse en disant « je suis l'alpha et l'oméga » et que ce lien sémantique existe, ce n'est pas une invention de ma part, c'est une idée qui est partagée par un grand nombre d'érudits de la parole de Dieu. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, et c'est l'un avec l'autre. Ce n'est pas l'un sans l'autre. C'est impossible. Déjà, si nous regardons le Nouveau Testament, et si nous faisons le bilan de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, peut-être que de premier abord, vous vous dites, ce n'est pas le même message. Il y a un message d'amour dans le Nouveau Testament, alors que l'Ancien Testament est beaucoup plus dur. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les premiers cours, Dieu ne change pas. Et ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas les actions de Dieu de la même manière que cela détermine le caractère de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup sensibles à l'amour, à ce que Jésus nous dit, mais Jésus lui-même, dans ses paroles, a bien clairement dit qu'il était, et il a lui-même utilisé des citations de l'Ancien Testament. Il a lui-même dit qu'il n'était pas venu pour détruire ce qui avait été construit avant, mais pour accomplir. Accomplir, ça ne veut pas dire remplacer. Alors, si nous étudions les textes du Nouveau Testament, nous rencontrons qu'il y a des dizaines et même des centaines de liens entre des versets du Nouveau Testament et des versets de l'Ancien Testament. On peut identifier autour de 295 citations de versets de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, pour les auteurs du Nouveau Testament. Et ces 295 citations vont couvrir 352 versets du Nouveau Testament. Et ça, il s'agit des versets qui sont clairement cités. C'est-à-dire, on prend un verset de l'Ancien Testament et on le cite et on se l'approprie dans le Nouveau Testament. C'est énorme. À côté de cela, il faut rajouter les allusions Il existe de nombreuses allusions à des versets dans l'Ancien Testament à travers des phrases du Nouveau Testament. Et on pourrait dire qu'il y a une troisième couche, un troisième niveau à tout cela. Il faut, quand on étudie les langues anciennes, il faut aussi être sensible aux reprises sémantiques, aux thématiques, aux champs lexicaux, à la manière d'exprimer une pensée. Parce que c'est vrai que le Nouveau Testament a été écrit pour, en grande partie, et en particulier tous les écrits de Paul, dans la langue grecque, dans une langue grecque très très populaire, on va dire, le koiné. Et quand on écrit en grec, voilà, on fait des références, on peut faire des références à la culture grecque, on peut faire des références à plein de choses. Mais quand on étudie le grec du Nouveau Testament, on se rend compte qu'il y a de nombreuses références aussi à la manière de penser du monde hébraïque. Il y a des références au monde grec et philosophique grec, mais il y a aussi des références à la pensée hébraïque. Et ça ne pouvait pas être autrement, puisque l'un des plus grands auteurs du Nouveau Testament, Paul, est à la fois un homme qui s'exprime en grec, est à la fois citoyen romain, mais il est à la fois juif et parlant couramment l'hébreu, lisant couramment l'Ancien Testament dans la langue originale. Donc nous ne pouvons pas nier ce lien qui existe et qui est littéraire, qui est puissant, qui est fort, et que si nous nous détournons de ce lien-là, en fait, nous réinventons la parole de Dieu. Il y a aussi une autre réalité, c'est que Jésus, la venue de Jésus en tant que sauveur du monde, de l'humanité, en tant que Messie pour les hommes, c'est une venue qui est annoncée dans l'Ancien Testament, qui est prophétisée dans l'Ancien Testament. Et en fait, je voudrais dire que si nous abandonnons l'Ancien Testament, nous abandonnons l'Ancien Testament pour garder que le Nouveau Testament, en fait, nous allons casser, enlever la légitimité qu'il existe sur Jésus. Jésus se présente à Israël en premier lieu. Qu'est-ce qu'il fait ? La première fois qu'il parle réellement en public, ou en tout cas qu'on a le texte de ce qu'il dit en public, il ouvre la Bible, il ouvre le livre d'Ésaïe, le prophète. Il lit un passage et il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Ancien Testament est accomplie en moi. Je suis celui qui a été annoncé. » Si nous découpons Ancien Testament, Nouveau Testament, nous sommes en train de casser la légitimité de Jésus et le pourquoi, le fait de croire en lui. Alors si nous enlevons l'Ancien Testament, il ne reste plus qu'un homme, Jésus, qui arrive en Israël et nous pouvons adopter sa philosophie ou pas. Mais nous ne sommes pas dans une démarche de foi et dans une démarche de croire que le Dieu qui a créé l'univers, il est celui qui a envoyé un moyen de salut pour l'humanité. Et nous faisons juste le choix de rejoindre Jésus comme un philosophe, peut-être, comme un penseur de son temps, comme quelqu'un qui a dit de belles maximes, de belles phrases, et que nous voulons adopter un style de vie qui lui ressemble, mais très humain, basé sur nos efforts humanistes et personnels. Et je voudrais dire enfin que, contrairement aux apparences et contrairement à ce que peut-être certains textes peuvent nous dire, ce n'est pas parce qu'il y a de la violence dans l'Ancien Testament, ce n'est pas parce qu'il y a de sang qui coule, ce n'est pas parce que des hommes font des erreurs que le Dieu de l'Ancien Testament aime moins l'humanité que le Dieu du Nouveau Testament. Ne nous fions pas aux apparences, ne nous fions pas aux difficultés que nous avons parfois quand nous lisons certains textes bibliques, mais ayons confiance dans le Dieu qui a tout créé et qui a pourvu à notre salut, qui a prévu une bonne nouvelle pour nos vies et qui a permis que le prix soit payé pour notre rachat. Permettons-lui de se révéler à nous à la fois dans le Nouveau et à la fois dans l'Ancien Testament. Voilà un petit peu ma réponse à ce commentaire qui en fait n'était pas une question. Et je voudrais, en fait aujourd'hui je ne citerai pas de verset, mais je vous inviterai à lire ce psaume, le premier psaume, le psaume chapitre 1 des psaumes, versets 1 et 2, qui dit « Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, et qui conduit sa vie en fonction. » J'ai fait exprès de paraphraser le texte, parce que c'est pour vraiment le prendre comme une parole qui est en moi, c'est-à-dire « Heureux l'homme qui décide de méditer la parole de Dieu jour et nuit, et qui va en faire un mode de vie, qui va en faire sa nourriture. » Alors nous allons voir ensemble pendant quelques minutes comment nous pouvons recevoir la parole de Dieu. Quelle est sa position en tant que livre? Est-ce qu'elle est un livre parmi d'autres dans notre vie? Est-ce que je dois la lire? Oui, parce que c'est le livre des chrétiens, mais en même temps, je peux me laisser influencer par d'autres textes sacrés qui pourraient être beaux, qui pourraient m'amener quelque chose. Je vais essayer de vous montrer avec quelques concepts que nous croyons, nous, que la Bible n'est pas simplement un livre. Et c'est vrai que le mot « Bible » veut dire « livre » ou même presque « bibliothèque », un ensemble de livres, mais que nous ne devons pas le traiter de la même manière que un écrit de Cicéron, un écrit de Victor Hugo. Ce n'est pas la même chose. Il y a derrière cette Bible, derrière ce livre, une action puissante de Dieu pour qu'elle puisse être écrite. Il y a une action puissante de Dieu pour qu'elle soit sauvegardée et qu'elle arrive jusqu'à nous. Il y a une action puissante de Dieu qui a fait que ce livre, ce n'est pas juste le fruit de l'aventure d'un homme. Si aujourd'hui ce livre qui est le plus lu au monde, si c'est aujourd'hui le livre qui a été le premier à être imprimé, c'est parce que Dieu a veillé aussi sur ce livre, malgré des tentatives de destruction, malgré des tentatives de le faire disparaître. Il a résisté aussi. Je prie que votre doute puisse s'éloigner de vous au fur et à mesure que vous allez lire la Bible et au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu va descendre sur vos vies et vous illuminer, vous faire comprendre combien il est celui qui est derrière ce livre. Alors je vais assez rapidement venir sur plusieurs points qui me semblent importants pour comprendre. Et là, on va sur les bases en fait, de la théologie. Souvent, quand on débute des études bibliques ou des études de théologie, les premiers cours vont être consacrés justement à ce sujet de la parole de Dieu, de la Bible. Souvent, quand on achète un livre de théologie systématique, on va voir souvent que les premiers chapitres sont consacrés à la parole de Dieu et pourquoi la Bible est notre référence ultime. Alors la première chose que je voudrais faire, c'est de définir le terme « parole de Dieu ». Parce que c'est une expression en fait qui est un peu une expression valise qui va vouloir dire plusieurs choses. Parce que dans la Bible, l'expression « parole de Dieu » va vouloir dire trois choses. C'est à la fois Jésus. Jésus est décrit dans le Nouveau Testament comme la parole de Dieu. Dans Jean, on parle du la parole de Dieu, et en fait en grec on a ce mot, ce terme qui est le logos. Et derrière ce terme de parole de Dieu, on parle à la fois de Jésus la personne, et à la fois de Jésus dans son activité divine, puisque Jésus est Dieu, et quand il s'incarne, il n'est pas en train de naître, il existe déjà depuis le commencement, dans son activité de création. Le logos en grec, c'est un mot qui est très puissant, et qui a ce sens-là de la puissance de la création à l'œuvre depuis le commencement. Jésus est à la fois cette personne, cet homme qui se présente à nous comme un homme, mais qui est Dieu, et il est aussi celui qui est à l'origine de la création du monde, parce que la Bible nous dit que le monde et toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans la Bible, quand on a l'expression « parole de Dieu », ça veut aussi dire, tout simplement, les mots, les décrets, les lois, les choses, les prophéties qui sortent de la bouche de Dieu. Ça, c'est le sens le plus littéral, le plus compréhensible. Et puis, le troisième sens, ça va être la parole de Dieu désigne aussi le livre. Et en soi, cela se comprend facilement, c'est-à-dire que ce livre est le recueil écrit de ce que Dieu dit aux hommes. Évidemment, la Bible ne contient pas Dieu, au sens que Dieu est présent de la première lettre à la dernière, mais la Bible est un livre de quelques centaines de pages, de quelques milliers de chapitres, mais qu'évidemment Dieu est plus grand qu'un livre, et que notre connaissance, de toute façon, sera toujours limitée, et que la parole de Dieu, parce qu'elle a choisi de se manifester à travers la Bible, ce livre écrit, elle a été écrite par des hommes, donc par des êtres humains qui ont été des canaux pour écrire des choses venant de Dieu. Ils ont exprimé certaines choses, mais on ne comprend pas tout de Dieu. Dieu ne se limite pas à ce livre, mais il est pleinement dans ce livre. De même, par exemple, si nous prenons un exemple, le récit de la création nous dit des choses de Dieu, mais nous n'explique pas de A à Z comment les choses se passent. Les érudits, les chrétiens, depuis des milliers d'années, les juifs, depuis des milliers d'années, se sont posé des questions sur ce texte. Ils se sont dit, est-ce que ça veut dire que tout est dit de la création ici? Une partie de ce qui s'est passé nous est expliquée, mais Dieu n'a pas tout livré dans la parole de Dieu. Par contre, nous, en tant qu'êtres humains, c'est ça que nous avons de Dieu. C'est ce cadeau qui nous est donné par Dieu pour le comprendre, pour l'écouter, pour l'entendre et pour être impacté et transformé par la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors, après avoir défini cela, je vais voir cinq points avec vous qui vont nous parler de l'importance du respect et de la primauté que la Bible a dans notre foi et dans notre croyance que Jésus est le sauveur de l'humanité, la seule solution à tous nos problèmes et le seul qui puisse racheter les hommes et les ramener vers leur Créateur. La première chose qui est importante de dire, alors ça va être un mot un peu barbare, c'est que je crois. Et nous croyons dans l'inhérence de la parole de Dieu. L'inhérence de la parole de Dieu, ce n'est pas un terme qui est dans la Bible, mais c'est un terme qu'on a utilisé en théologie pour déterminer un aspect important, pour dire d'une manière assez générale que la parole de Dieu a toujours raison, quelque part, dit toujours vrai, et qu'elle ne se trompe pas dans n'importe quel domaine, et qu'elle doit être le seul critère de nos vies. Le seul livre qui doit déterminer l'ensemble des aspects de nos vies, à la fois de notre croyance, de notre vie pratique, de nos choix, de tout ce que nous faisons. Alors de dire cela va avoir des conséquences éthiques, cela va avoir des conséquences sur notre foi, cela va avoir des conséquences sur notre compréhension de Dieu, cela va avoir des conséquences sur tous les domaines de nos vies. Alors, je ne pourrai pas rentrer dans les détails sur l'inhérence parce que c'est un concept qui est toujours très débattu et qui est assez compliqué à définir et qui a été beaucoup attaqué, en particulier par toute la vague du protestantisme libéral qui ne croit pas forcément à cela par rapport à la parole de Dieu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Bible a toujours raison. Alors, certains ont attaqué la Bible et ont dit, mais la Bible se trompe d'un point de vue scientifique. La Bible ne se trompe d'un point de vue historique. Et en fait, je pense que quand on attaque la Bible de ce côté-là, c'est qu'on se trompe et qu'on ne comprend pas pourquoi nous avons ce livre devant nous et pourquoi Dieu nous a donné cela. Dieu n'a pas le but de venir vers vous et de dire voici toutes les réponses à la science et à toutes les questions que vous vous posez sur les lois physiques qui tiennent le monde. Ce n'est pas un livre scientifique. Ce n'est même pas un livre littéraire. C'est un livre qui contient des aspects littéraires, qui contient des aspects poétiques, qui contient des livres prophétiques, qui contient des livres de loi. Mais c'est un message que Dieu nous adresse, qui est véritable, qui ne peut pas être remis en cause. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ce livre, nous aurons la réponse à toutes nos questions scientifiques, par exemple, ou à toutes nos questions historiques. Savoir à quelle date Israël a été à cet endroit, savoir à quel moment les choses se sont passées comme ci, comme cela. Il est important de réaliser que de dire que la Bible ne se trompe pas et que la Bible a toujours raison, ça ne veut pas dire qu'elle est la réponse à tout d'un point de vue scientifique. Par contre, elle est la réponse à tout d'un point de vue de notre recherche de la vérité, d'un point de vue de comment nous devons vivre, d'un point de vue de quel choix nous devons faire. D'un point de vue de comment nous devons retrouver le chemin de notre Créateur. Ça, c'est un premier point, et maintenant je vais avoir quatre points qui sont plus simples à aborder, qui sont, je vais les dire tout à la suite, l'autorité de la parole de Dieu, de la Bible, la clarté de la parole de Dieu, de la Bible, sa nécessité et sa suffisance. L'autorité, c'est de dire que finalement, rien ne va venir contre elle, rien ne doit et peut venir contre elle parce que elle est elle-même son autorité. C'est-à-dire que la parole de Dieu se définit comme notre autorité parce que dans la Bible nous dit conduisez-vous selon la parole de Dieu. Le psaume que je vous ai cité tout à l'heure nous dit méditez la loi et vous serez un homme heureux. Jésus dit que finalement nous devons vivre ce qu'il y a dans la parole. elle est aussi sa propre vérité, c'est-à-dire qu'elle s'explique elle-même. On n'explique pas la parole de Dieu. Alors c'est vrai que certains textes, on essaye de les expliquer avec l'archéologie, on essaye de les expliquer avec l'histoire, et c'est très intéressant d'avoir ces recherches. Et d'ailleurs, souvent, quand on voit le progrès de certains éléments dans l'archéologie, on se rend compte que plus on avance, plus certains passages de la parole de Dieu sont confirmés par nos recherches archéologiques. Et si cela vous intéresse, je vous invite je mettrai le lien en description, je vous invite à acheter une Bible qui est une très belle édition de la parole de Dieu, qui est la Bible Archéo, qui est très bien faite, qui vous apprend beaucoup de choses et vous montre que finalement, plus l'archéologie avance, plus nous nous rendons compte que ce qui peut-être était remis en cause il y a 2 siècles ne l'est plus aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça dont Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin des fouilles d'un archéologue pour prouver qu'il existe. Il se justifie lui-même par sa parole. Il y a un raisonnement qui est circulaire, une autorité qui est circulaire à l'intérieur de la Bible, et c'est en naviguant d'un texte vers l'autre que nous allons mieux comprendre la logique de Dieu, mieux nous faire une image de qui est Dieu, et mieux comprendre qu'il s'impose à nous avec une autorité. La Bible devient cette règle d'autorité sur nos vies et doit s'installer ainsi sur le long terme. La deuxième chose, c'est que, et je pourrais revenir sur l'autorité, il y a aussi ce que je vous ai dit en introduction, que l'Esprit de Dieu va venir sur vous pour vous inspirer et vous permettre de comprendre comment Dieu est dans ce livre. Et c'est vrai que je peux passer mon temps à essayer de démontrer cela avec mes mots, mais s'il n'y a pas une action de Dieu sur vos vies, s'il n'y a pas une foi qui commence à monter dans vos cœurs, vous n'arriverez pas jusqu'à la limite extrême de ce que Dieu peut vous faire comprendre à travers la Bible. Il y a ce passage spirituel, il y a ce passage qui se passe aussi dans le cœur par rapport à reconnaître l'autorité de Dieu à travers sa parole. Alors, deuxième point, c'est la clarté. Il y a dans la parole de Dieu un message qui est définitif et qui est clair. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il n'y a pas besoin d'ajouter et de venir compléter par d'autres choses pour pouvoir s'éclairer par rapport à ce qui est enseigné. Il y a un point final, il y a une présentation, par exemple, comme on l'a fait la dernière fois, de l'Évangile, et c'est un point final. Il n'y aura pas d'autre solution de salut. On peut chercher, on peut lire, on peut voir, on peut se dire qu'il y a quelque chose derrière, ou quelque chose d'autre, on peut s'attendre à quelque chose d'autre. Mais non, la Bible est claire. Elle est quelque part assez simple, finalement, dans son message. Et malgré certains textes compliqués, le message de l'Évangile est simple. Le salut est par la foi en Jésus-Christ. Il est réservé à tous parce que tous sont privés de la gloire de Dieu, parce que tous ont péché. Il ne peut pas être basé sur nos œuvres et sur nos efforts, parce que cela voudrait dire qu'on essaierait d'obéir à la loi alors que la loi n'est qu'un miroir pour nous révéler notre état. Toutes ces choses sont claires, sont là, et elles ne peuvent pas être complétées, ne peuvent pas être modifiées, ne peuvent pas être transformées avec le temps. La troisième chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a une nécessité de la parole de Dieu dans nos vies. Elle est indispensable pour connaître Dieu, pour le découvrir, pour apprendre qui il est, découvrir ses attributs. Elle est indispensable pour s'édifier, pour grandir dans notre foi, pour croître à la ressemblance de notre maître. Elle est indispensable pour connaître la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons dit dans un cours précédent, où nous avons dit qu'il y a une partie de la volonté de Dieu qui est révélée, qui est là dans la Bible. Et si nous ne connaissons pas la Bible, nous allons faire des prières qui seront très loin de ce qu'il veut pour nous. Nous allons tromper. Nous allons peut-être nous débattre avec des situations alors qu'il nous aura dit « Attention, ce n'est pas la peine d'aller dans cette direction. » Par contre, quand on dit que la parole de Dieu est nécessaire, ça ne veut pas dire que ça nous prive de prier, par exemple. Ça nous prive de chercher Dieu. Ça nous prive aussi d'écouter notre conscience, parce que Dieu a inscrit différents mécanismes en nous pour nous permettre d'être bons devant lui. Il y a aussi cette voix de la conscience, et c'est Paul qui en parle en disant que finalement, ceux qui pêchent sont inexcusables parce qu'au-delà de la parole de Dieu, il y avait déjà cette loi de la conscience en nous. Mais la parole de Dieu est indispensable pour notre croissance, pour notre édification, pour ressembler toujours plus à notre modèle, à Jésus-Christ. Et la dernière chose, c'est qu'elle est suffisante. Elle est suffisante d'abord parce qu'il n'y a rien besoin d'y ajouter. Et d'ailleurs, même la Bible, plusieurs fois, nous enseigne de dire attention, vous ne devez ni ajouter ni retrancher quelque chose de la parole de Dieu. Il n'y a rien besoin d'ajouter. Tous les livres que vous pouvez lire, tous les livres chrétiens que vous pouvez lire, et c'est vrai que j'encourage souvent à la lecture, ne doivent pas remplacer la parole de Dieu. Ils doivent toujours être contextualisés comme des livres d'hommes faillibles, qui ne sont même pas au niveau de ceux qui ont écrit la Bible, qui ne sont pas dans cette logique d'inspiration, mais qui sont là peut-être pour commenter, pour donner un témoignage, pour expliquer une position. Ça peut être là, ça peut être utile et édifiant, mais la Bible est la seule référence et elle est suffisante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que la Bible ne contient pas tout Dieu parce que Dieu est infini. Par contre, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a reçu une parole de Dieu et qu'il faut l'ajouter à la parole de Dieu, la Bible. Il y a eu un point final, c'est dans l'Apocalypse 22, ça s'est arrêté. Il n'y a aujourd'hui plus rien à ajouter à la parole de Dieu. Et en lisant la Bible, il y a ce qu'il suffit à l'homme. Il y a ce qui suffit à sa foi, à sa vie et à son salut. Alors c'est vrai que l'homme a souvent, et quand je dis l'homme, c'est le genre humain, l'homme, la femme a souvent cherché des mystères, a souvent eu dans l'histoire du christianisme une démarche mystique, à chercher des choses cachées, à chercher des choses qui manquaient peut-être à la parole de Dieu, et on a voulu ajouter des choses, on a voulu aller chercher des informations dans des livres apocryphes, on a voulu chercher des choses par-ci par-là. Mais c'est la parole de Dieu, telle que l'on l'a reçue, qui est inspirée, suffisante, nécessaire, claire et d'autorité sur nos vies. Alors j'espère que cela a apporté un petit peu d'enseignement à ceux qui se posaient des questions. Et j'ai volontairement oublié un aspect de ce qu'on pourrait dire dans un cours comme celui-ci, tout simplement parce que je veux rester court, concis, et je sais que vous allez me poser la question. Et donc je sais que j'y reviendrai la semaine prochaine. Mais déjà, gardez cette idée que la priorité pour vous, c'est de vous diriger d'après la parole de Dieu, de méditer jour et nuit sa parole. Comme le dit le psaume chapitre 1, versets 1 et 2, « Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu, qui médite la loi, jour et nuit. » Réalisez que même si vous ne comprenez pas, continuez à lire. Je prierai, je prie et je vais prier là pour que l'Esprit de Dieu descende sur vos vies et vous convainque, s'il est besoin encore, que sa parole de la Genèse à l'Apocalypse est à accepter comme votre autorité. Peut-être que ça va remuer certaines positions éthiques, peut-être que ça va bouleverser certains choix que vous avez faits, et peut-être que vous allez vous dire, mais il y a certains comportements qui ne sont pas listés dans la Bible. Il y a des choses que je voudrais savoir, est-ce que la Bible permet cela ? Et c'est vrai qu'il n'y a pas une liste de lois pour tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, mais par contre, il y a l'esprit de la loi et comment Dieu voit les choses. Ce que Dieu nous invite à vivre pour être plus près de son cœur. Il y a la simplicité de l'évangile qui nous est annoncée. Et le seul moyen de la foi, le seul moyen de salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Et alors, peut-être qu'un jour, nous reviendrons dans un cours sur les manuscrits de la Bible, sur comment nous avons ce texte qui nous est parvenu et pourquoi, du coup, la Bible serait plus sûre que le Coran. Et on pourrait revenir sur cela, mais je garde cela pour un prochain cours. Mais gardez cette réalité à l'esprit. La Bible est votre autorité. Vivez par la Bible. Grandissez à travers la Bible. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Alors n'hésitez pas à continuer à me poser des questions à cette adresse qui s'affiche. contact.pastorsam@gmail.com. Je suis vraiment disponible, soit pour vous répondre directement si la question est plus personnelle, soit pour réutiliser la question pour plus tard. Je suis à l'écoute, je remercie tous ceux qui m'écrivent et c'est vraiment un plaisir de vous lire. Ça donne du travail, mais c'est vraiment le but. Donc n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas aussi, si vous le désirez, à vous abonner à la chaîne Église Paris Métropole et activer les notifications avec la petite cloche, afin de garder toutes les actualités de ce que nous faisons dans votre calendrier, de pouvoir rester en contact. Je vais désormais prier pour vous et vraiment vous inviter et prier Dieu à ce que vous puissiez vraiment réaliser l'importance de la Bible dans vos vies. Seigneur, je te prie de visiter chacun de mes frères et sœurs, chacun de mes amis, chacune des personnes qui découvrent peut-être la foi, la parole de Dieu. Et je te dis de veiller sur ta parole, vraiment de faire que la parole devienne pour ces personnes leur autorité, leurs règles, leur standard de vie. Je te prie vraiment que ton esprit puisse les envahir, leur montrer des choses merveilleuses dans ta parole de Dieu. Leur montrer combien tu es celui qui a inspiré ce livre, combien tu as réuni des hommes à travers les siècles pour donner ce livre, et combien tu as veillé sur ce livre et qui peut les bénir. Je te prie vraiment qu'ils puissent découvrir ce trésor et qu'ils puissent désormais vivre avec chaque jour de leur vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons et à la semaine prochaine.